Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Europe Midi. Qu'est-ce que ça va être si l'examen de chaque texte se déroule comme ces quatre derniers jours à l'Assemblée nationale ? Les députés ont voté le projet de loi pouvoir d'achat, du moins son premier volet, dans une ambiance pas toujours très sereine. Ce fut parfois laborieux, tendu. Nous en parlons avec nos débatteurs du jour, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice gauche républicaine, et Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines. Nous parlerons évidemment du fond. Que contient concrètement ce projet de loi ? Comment protégera-t-il notre pouvoir d'achat ? Et puis, il va falloir l'intégrer au budget maintenant. Les députés s'y attellent dès cet après-midi. Ils examinent notamment la suppression de la redevance audiovisuelle. Nous irons aussi en Gironde, où les feux se calment, mais où des milliers de personnes commencent à trouver le temps long. Ce sont ces évacués des régions de l'Andiras et de la Teste de Buch. La majorité d'entre eux n'ont toujours pas le droit de revenir chez eux. Et puis le Tour de France est terminé pour le suspense au général. Le Danois Vingegaard a tué le Tour hier avec un beau coup de force dans les Pyrénées. C'en est fini du suspense, mais pas du spectacle. Il reste trois étapes, dont celle du jour entre Castelnau, Magnoac et Cahors. Richard Virenque et nos équipes sur les routes du Tour seront avec nous tout au long de cette nouvelle édition d'Europe Midi. Soyez toutes et tous les bienvenus. Europe 1. Comme dans tout accouchement dans la douleur, il a fallu du temps, très peu de sommeil et les nerfs bien accrochés. Les députés auront mis quatre longues journées pour adopter en première lecture et en intégralité le projet de loi pouvoir d'achat. Ça s'est achevé au petit matin tout à l'heure. 341 voix pour, 116 contre. Bonjour Alexandre Chauveau.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Alors mercredi soir, les députés ont voté la déconjugalisation des allocations adultes handicapés ou encore le triplement de la fameuse prime Macron qui pourra aller jusqu'à 6000 euros. Quelles nouvelles mesures ont été adoptées entre hier soir et ce matin pour défendre le pouvoir d'achat des Français ?
Alors hier soir, il a surtout été question des moyens pour limiter l'impact de la guerre en Ukraine avec un objectif, tout faire pour éviter les coupures d'électricité ou de gaz cet hiver. Concrètement, l'Assemblée a voté la possibilité de réquisitionner les centrales à gaz pour alimenter le réseau de chaleur, la construction d'un terminal gazier temporaire au Havre ou la réouverture toujours temporaire de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Autant de mesures qui ont provoqué l'ire des députés écologistes et de la NUP en général qui fustigent un projet climaticide. Le seul amendement venu de la gauche et voté par l'Assemblée provient de Julien Bayou. Il autorise l'utilisation de l'huile alimentaire usagée comme carburant.
Voilà, l'aile gauche de l'hémicycle d'où est souvent venu le chahut, la tension ces derniers jours, et particulièrement la nuit dernière, Alexandre.
Oui, alors pas uniquement, mais la séance de cette nuit a été, c'est vrai, particulièrement agitée. Autour de 23h, par exemple, Aurélien Saint-Toul, député insoumis des Hauts-de-Seine, revisite à sa façon une fable de La Fontaine.
Bien sûr, on connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme la chauve-souris de la fable. Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle est un rat.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Voilà, bronca et claquement de pupitre au Rassemblement National, suspension de séance et la réponse intervient au petit matin sur les coups de 5h. Jean-Philippe Tanguy monte au perchoir pour expliquer son vote. Salut Marine Le Pen qui, dit-il, a parlé la première de la question du pouvoir d'achat et lâche un cri du cœur en direction de la NUP.
Alors, silence ! Alors ! Oh, ce cri du cœur ! J'avoue,
Monsieur Tanguy, s'il vous plaît.
Qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous.
Chers
collègues de gauche.
Monsieur Tanguy, s'il vous plaît.
Voilà un aperçu de ce qui s'est passé cette nuit. À noter également les critiques à l'encontre de la gestion des débats par la vice-présidente de l'Assemblée, la députée RN Hélène Laporte.
Ça s'annonce long, cette législature. Merci Alexandre Chauveau. Ça s'annonce long, d'autant que les locataires du Palais Bourbon n'en ont pas fini avec le pouvoir d'achat. Eh bien oui, il va falloir intégrer ces mesures dans le budget. Maintenant, un projet de loi de finances rectificative. L'examen débute cet après-midi. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, là encore, on s'attend à des bras de fer dans cet hémicycle si fragmenté.
Oui, et ça devrait commencer par la suppression de la redevance audiovisuelle. 138 euros en moins à payer pour les foyers qui possèdent un téléviseur. Emmanuel Macron en a fait une promesse de campagne, mais les députés de l'Alliance de gauche, inquiets de l'indépendance des médias publics, y sont farouchement opposés. Autre point de tension, et pas des moindres, la question de la taxation des super-profits des grands groupes. Les députés de la NUPES, comme du Rassemblement National, y sont favorables, alors que les parlementaires du camp présidentiel sont loin d'être tous d'accord. Une dizaine de députés Renaissance proposent par exemple d'instaurer une taxe de 15% sur les bénéfices des sociétés pétrolières, gazières et de transport maritime de marchandises, cela contre l'avis du gouvernement. Et les débats s'annoncent tout aussi houleux au sujet de la limitation de la hausse des prix des carburants. Même si les Républicains et la majorité présidentielle pourraient finalement trouver un accord pour prolonger la ristourne et l'augmenter de 18 à 30 centimes dès septembre. Enfin, les élus du RN et de l'Alliance de gauche espèrent réduire, voire supprimer la TVA sur un certain nombre de produits de première nécessité. Pour l'exécutif, la bataille de la fiscalité ne fait que commencer.
Merci Jacques Serin, on suivra ça avec vous tout au long des débats qui vont commencer dès cet après-midi. Autre piste lancée par la Première Ministre sur les carburants ce matin dans une interview au groupe de presse Ebra, Elisabeth Borne suggère de doubler la prime versée par les entreprises à leurs salariés utilisant beaucoup leur voiture. Aujourd'hui de 200 euros défiscalisés, elle pourrait passer à 400. Le carburant, probablement le poste de dépense le plus asphyxiant pour les Français actuellement, malgré la ristourne de 18 centimes par litre. Et ça, un grand groupe pétrolier l'a, semble-t-il, compris. En tout cas, Total Energy le présente comme ça, en annonçant une réduction de ses tarifs de 20 centimes du 1er septembre au 1er novembre prochain, Aurélien Fleureau.
Exactement, l'annonce a été faite ce matin. Cette ristourne de 20 centimes va remplacer la baisse actuelle de 12 centimes. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'elle va s'appliquer à l'ensemble des stations-service du réseau de Total Energy, pas uniquement sur autoroute. Une baisse sans limite de montant qui s'applique dès le premier litre acheté et qui passera à 10 centimes à partir du 1er novembre. Donc concrètement, à la rentrée, elle va s'ajouter aux 18 centimes du coup de pouce carburant du gouvernement qui sera prolongé et peut-être augmenté. Cela va dépendre des discussions au Parlement évoquées juste avant par Jacques Seret. En tout cas, cette annonce, elle n'arrive pas par hasard. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, l'a dit ce matin. Nous préférons faire une contribution immédiate et directe pour nos clients plutôt qu'une taxe indirecte qui pénaliserait nos raffineries. Clairement, la petite musique sur la taxation des super-profits a fait son effet. D'ailleurs, ce matin également, l'armateur CMA-CGM a annoncé lui aussi un nouveau geste. Le groupe va baisser les prix de 750 euros par conteneur pour les importations en provenance d'Asie à partir du mois d'août, en espérant que cela puisse effectivement se ressentir sur le prix final des produits.
Merci Aurélien Fleureau. Les grands groupes prennent les devants pour limiter les effets de l'inflation. La question se pose aussi pour les réseaux d'autoroutes, les péages appelés à augmenter automatiquement. Cette fois, c'est le gouvernement qui anticipe. Le ministre des Transports, Clément Beaune, annonce ce matin sur CNews l'ouverture de discussions à la rentrée.
Nous aurons cette nouvelle discussion dès la rentrée pour le début de l'année 2023, pour que les prix des péages n'explosent pas malgré l'inflation. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas avoir une revalorisation des péages, ce qui pourrait arriver automatiquement si on ne faisait rien, de 6, 7, 8% pour suivre l'inflation. Ça, c'est impossible. Donc on aura cette négociation dès la rentrée pour que le pouvoir d'achat des Français par des mesures commerciales, comme celles qu'on connaît cet été, réduction pour ceux qui ont un badge de télépéage et des chèques vacances, des mesures supplémentaires et surtout, surtout, pas d'explosion des tarifs de péage en début d'année prochaine.
Le ministre des Transports Clément Beaune sur CNews ce matin. Les prix des péages à surveiller, ceux des fruits et légumes aussi, même s'ils ont déjà beaucoup augmenté, plus 11% sur un an selon une étude publiée aujourd'hui par Famille Rurale. Et puis pour l'INSEE, les Français perdront 1% de pouvoir d'achat en 2022. Eux commencent à être impatients. Des milliers d'habitants des régions de la Teste de Buch et de l'Andiras en Gironde, contraints à l'évacuation en raison des gros incendies qui ont ravagé des forêts ces derniers jours près de chez eux. Les retours sont autorisés au compte-gouttes. Seules 6000 personnes ont reçu le feu vert. À Balizac, par exemple, pas très loin de l'Andiras, la mairie reçoit des appels d'habitants de la ville contraints à cet exil temporaire. Mais aussi, au bout de 10 jours, ça commence à taper sur le système. Benjamin Péter s'est rendu dans la mairie de Balizac.
Mairie de Balizac, bonjour. Pas du tout, ça ne sera pas dans l'immédiat parce qu'ils veulent que le feu soit bien maîtrisé.
Le téléphone de Cindy, la secrétaire de mairie, n'arrête pas de sonner. Des habitants qui, eux aussi, veulent rentrer chez eux.
Ça n'arrête pas. Ils veulent rentrer chez eux et ils ne comprennent pas que ce n'est pas la mairie qui décide et encore moins la secrétaire de mairie. Pour eux, ça s'arrange, ça ne risque plus rien, sauf que non, ce n'est pas le cas. C'est compliqué. Ils ne sont plus patients, donc ils ne sont pas très gentils.
On ne vous a pas crié dessus.
Allez.
C'est comme moi qui le vois forte aussi.
Allez-y, parce que le compteur commence.
Comme pour ce monsieur, certaines dérogations d'une demi-heure sont accordées pour récupérer des affaires ou nourrir les animaux. Pour la mère Nathalie Duluc, même si c'est impopulaire, il faut rester prudent.
Les 10 derniers jours nous ont montré qu'en 2 heures, tout peut basculer. Il faut vraiment que le feu soit fixé pour que tout le monde soit tranquille et qu'on ne recommence pas une évacuation. On a tous hâte, hein. Moi j'habite au château d'eau. Moi aussi j'ai envie de rentrer chez moi. Mais on va faire attention et tant pis, les gens ne seront pas contents, mais au moins on aura fait les choses bien et je comprends. comprends que les gens soient agacés, mais ils comprendront après, je pense.
Et tout à l'heure, à 13h, le sous-préfet de Langon va organiser une nouvelle réunion avec tous les maires des communes évacuées pour voir si de nouveaux retours sont envisageables dans la soirée. À Balizac, Benjamin Péter, Europe 1.
Et puis pour ceux qui ont tout perdu, les propriétaires de campings détruits par les flammes, notamment les ministres de l'économie et du tourisme, appellent les assureurs à la mobilisation. Courrier adressé par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire à la présidente de France Assureurs ce vendredi. Gérald Darmanin ne perd pas de temps, il est en Corse depuis ce matin. Hier, le ministre de l'Intérieur a reçu à Paris des élus corses. Il a ouvert le cycle de discussions promis après la vague de violence ayant suivi la mort d'Ivan Colonna. Ces discussions se poursuivent donc sur l'île de Beauté jusqu'à demain. Elles porteront sur toute une série de thèmes avec toujours en toile de fond la possibilité de renforcer l'autonomie de la Corse. Frédéric Michel, le premier flic de France, est à Bastia.
Oui, et la visite de Gérald Darmanin a débuté sous un soleil de plomb. Il fait très chaud ici à Bastia. Après un petit déjeuner en préfecture avec des élus de tous bords, le ministre a rejoint à pied le commissariat de police où il réunit actuellement les services de l'État pour une réunion sur le crime organisé, une priorité pour le ministre de l'Intérieur qui craint aussi que plus d'autonomie en Corse suscite des tentations. Il doit aussi rencontrer des étudiants, des gendarmes et des pompiers, visiter une entreprise et un dîner républicain avec des maires est prévu dans le sud de l'île. Le ministre nommé au printemps, Monsieur Corse, veut parler à tout le monde. D'ailleurs, ce matin, dans une longue interview à la presse régionale, il dit se sentir le ministre de la Corse et se félicite de l'agenda fixé avec les élus de l'île. Gérald Darmanin promet un dialogue sans tabou, même une autonomie institutionnelle n'est pas écartée.
Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 en Corse pour suivre cette visite du ministre de l'Intérieur. L'actualité à l'étranger, la campagne électorale a déjà commencé en Italie avec des élections anticipées prévues le 25 septembre prochain. Scrutin provoqué par la démission du président du Conseil Mario Draghi, dont la coalition a explosé ces derniers jours. On reste dans l'espace méditerranéen. En Turquie aujourd'hui, un accord doit être conclu et validé par les Nations Unies. Accord entre la Russie et l'Ukraine. Pas un accord de paix, non. Un accord pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes bloquées en mer d'Azov et en mer Noire. À Istanbul, notre correspondant Rémi Trio. Bonjour Rémi.
Bonjour à tous.
Alors, le secrétaire général de l'ONU sera là tout à l'heure pour valider cet accord à Ankara. À quoi doit-il servir cet accord, Rémi ?
Tout d'abord à éviter une famine en Afrique dans les pays pauvres les plus dépendants du blé, du maïs et de l'huile de tournesol ukrainienne. Depuis le début de la guerre, plus de 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les ports d'Ukraine. Aucun navire ne pouvait passer en raison du blocus russe en mer Noire. Avec cet accord, des couloirs de navigation sécurisés permettront aux céréaliers de circuler entre les côtes ukrainiennes et le détroit du Bosphore. Des opérations coordonnées par un groupe composé de représentants de l'ONU, d'Ankara, de Moscou et de Kiev depuis Istanbul. C'est aussi dans les ports turcs que seront menés les contrôles des vraquiers, une exigence russe qui veut s'assurer qu'aucune arme à destination de l'Ukraine ne se trouve sur ces bateaux.
Merci Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 à Istanbul. Il est très important de permettre l'exportation des céréales. Déclaration du Kremlin à l'instant. Tiens, avant de passer au sport, la dernière conférence de presse du Conseil scientifique dissous le 31 juillet prochain. Dernière conférence de presse pour son président Jean-François Delfraissy hier avec une dernière bonne nouvelle sur le front du Covid. Yasmina Katou, le pic de la 7e vague est passé selon le Conseil scientifique.
Et oui, puisqu'hier on recensait 80 000 cas positifs. Il y a 7 jours, on comptait près de 120 000 cas. C'est donc une baisse de 30%. Et chose importante, le taux de reproduction du virus est passé à 0,8. Si ce taux est supérieur à 1, l'épidémie se développe. En revanche, s'il est inférieur, l'épidémie régresse. Difficile de dire pour l'instant si l'on va rester à un nombre de contaminations élevé, donc sur un plateau, ou si l'on va retomber à un niveau faible d'infection quotidienne, comme au mois de mai. Ça, c'est pour les contaminations. À l'hôpital, en revanche, les hospitalisations sont toujours en hausse puisqu'il y a un décalage d'environ 15 jours entre la baisse des cas et la baisse des entrées à l'hôpital. Il y a en moyenne aujourd'hui 1450 nouvelles hospitalisations chaque jour, 136 entrées quotidiennes en en soins critiques. C'est en hausse de 8% par rapport à la semaine dernière. Le conseil scientifique prévoit même des tensions dans les hôpitaux, dans les zones touristiques comme le sud-ouest. Le pic à l'hôpital est attendu pour la fin du mois.
Merci Yasmina Katou. On entend de plus en plus parler de la quatrième dose de vaccin. La première ministre Elisabeth Borne a reçu la sienne ce matin. Et puis du côté de la Haute Autorité de Santé, elle reste opposée à une réintégration des soignants non vaccinés. Dernier avis rendu tout à l'heure, alors que le débat de la réintégration des non vaccinés est relancé ces dernières semaines.
Le Tour de France.
L'émotion vélo est sur Europe 1.
Tiens, le Covid, le seul à pouvoir bouleverser encore le Tour de France. Bah oui, il n'y a plus de suspense. Le maillot jaune devrait rester sur les épaules du Danois Vingegaard jusqu'à dimanche. Il a assommé le classement général hier à l'Otakam en remportant l'étape devant Pogacar. Martin Lange, 19e étape de plaine aujourd'hui entre Castelnau-Magnoac, où a vécu un certain Antoine Dupont, et Cahors. Ça devrait être moins éprouvant pour les mollets, Martin.
Oui Raphaël, hein, sur le papier, cette 19e étape ne présente pas de grosses difficultés. Mais attention, après un triptyque pyrénéen ultra éprouvant, les coureurs sont fatigués. Est-ce que les équipes de sprinteurs parviendront à contrôler la course pour offrir une arrivée groupée à Cahors? Rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr, c'est que pour les baroudeurs et notamment les Français, hein, toujours à la recherche d'une première victoire, ça sera la dernière occasion puisque demain, hein, c'est le traditionnel contre-la-montre et dimanche, la parade sur les champs. Ils devraient donc être nombreux à tenter leur chance après le départ ici à Castelnau-Magnoac, hein, le village d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France. Après sa démonstration d'hier, le maillot jaune Jonas Vingegaard, lui, devrait passer une journée au chaud dans le peloton pour préparer au mieux le contre-la-montre de demain, son dernier défi.
Merci Martin Lange sur les routes du Tour. Nous continuons d'en parler tout à l'heure vers 12h50 avec Richard Virenc. Allez, la météo. Bonjour Anthony Kazmarek.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Attention aux orages aujourd'hui.
Oui, ils sont arrivés ce matin par le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire. Ils vont se diriger dans l'après-midi vers la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Champagne et la Bourgogne. Prudence notamment dans quatre départements. La Somme, l'Oise, l'Eure et la Seine-Maritime. Ils seront dans ces départements violents, accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Donc attention, prudence, vigilance. Dans l'Est, avant l'arrivée des orages, le ciel va se voiler. Et puis le soleil, en revanche, vous allez le conserver tout l'après-midi entre les Alpes, la vallée du Rhône et la Méditerranée. Et puis quelques nuages vont aborder la côte atlantique, mais le temps va rester malheureusement sec, notamment vers la Gironde et vers les Landes. Les températures, toujours caniculaires dans le sud-est, où 13 départements restent en vigilance orange. On sera entre 35 et 39 degrés dans ces régions. Ailleurs, chaleur plutôt raisonnable avec 27 degrés à Bordeaux, 28 à Paris, 31 à Strasbourg, 32 à Toulouse, 21 à 25 près de la Manche. Demain, retour du soleil et dimanche, journée pleinement ensoleillée et surtout très chaude, 32 à 35 du nord au sud.
Un bon week-end qui s'annonce. Merci Anthony, Anthony Kazmarek pour les couleurs du ciel sur Europe 1.
Europe 1.
Le choix de Mola.
L'été, c'est toujours l'occasion de lire des livres sur son transat à la plage ou au bord de la piscine. Voici le conseil quotidien de notre partenaire, la librairie bordelaise Mola. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Stéphane, vous nous conseillez aujourd'hui une bande dessinée consacrée à Bob Denard, personnage sulfureux lié à la France-Afrique, cette période qui a suivi la décolonisation.
Oui, lui aimait se définir comme le corsaire de la République, se voyait comme un aventurier de son époque, mais son surnom était plutôt le chien de guerre pour son implication dans plusieurs coups d'État menés en Afrique. Bob Denard fut incontestablement le mercenaire français le plus connu et dans cette bande dessinée qui retrace sa vie du Médoc où il est né, à la prison de la santé où il fut incarcéré dans les années 90, en passant par le Congo, le Bénin, le Gabon, les Comores évidemment, où Denard a sévi. On suit, sur fond de France-Afrique et de décolonisation, la trajectoire de ce personnage aux zones d'ombre multiples, mais on replonge aussi dans une page d'histoire qui couvre toute la seconde partie du XXe siècle. Pierre Coutel, libraire chez Mola.
C'est 50 ans de vie politique française dans un rapport très ambivalent et que raconte très bien cet album, autour à la fois de quelqu'un qui manifestement au début est quand même plus ou moins mandaté par la partie secrète de l'État, mais par l'État quand même, et qui au fur et à mesure va se griser de pouvoir et va se dire mais en fait puisqu'on a besoin de moi et que je suis indispensable, pourquoi est-ce que je ne serais pas moi-même finalement une sorte de chef d'État? Et c'est vraiment à la fois l'histoire de cette dérive d'un individu, mais qui est aussi celle d'une époque, et aussi en même temps la fin d'une époque, c'est-à-dire celle où vraiment les barbouzeries sont plus vraiment possible, donc il faut se réinventer autrement.
Et l'on doit cet album très réussi au scénariste Olivier Jouvret et à la dessinatrice Lila Cognier.
Bon, au départ, ça m'a fait un peu flipper de dessiner des armes et des mercenaires. Hein. Et vu que je savais que je pouvais être très libre sur la figuration, ça m'a permis d'expérimenter plein de choses. Donc au Maroc, au Congo, Katanga, Indochine au départ aussi. Je me suis dit qu'à chaque fois, je pouvais prendre cette liberté-là, justement, de changer de technique, de changer de couleur totalement, pour justement changer d'univers et que justement, ça aurait un sens aussi dans le récit. Pour la représentation de la violence, j'ai essayé de faire le plus symbolique possible. Même presque drôle parfois, on a un poignard qui transperce la peau, ça fait un trou béant, des grosses giclures de sang un petit peu presque cartoon. Pas du tout pour dédramatiser la chose, parce qu'on le sait déjà hein, que c'était sanglant, et c'est plutôt justement, peut-être par égard pour les victimes de cette période-là, de se dire, bon, bah, ça sert à rien d'en plus rajouter quelque chose de vraiment sanglant, de dérangeant quoi, au niveau de la violence. Donc j'ai pris ça un petit peu plus symbolique.
Bob Denard, le dernier mercenaire, c'est une BD qui a reçu le prix du livre du réel qui récompense les ouvrages conjuguant le meilleur du journalisme et de la littérature.
Le choix de Mola, c'est tous les jours sur Europe 1. Merci Stéphane Place.
Europe Midi.
Place au débat maintenant à l'opinion. Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice gauche républicaine. Bonjour.
Bonjour.
Et le député MoDem des Yvelines, Bruno Millienne. Bonjour.
Bonjour.
Et on parlera notamment de ces débats houleux encore jusqu'à ce matin à l'Assemblée nationale sur le pouvoir d'achat des Français. Restez avec nous.
Europe Midi.
Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, merci d'être avec nous, de votre fidélité à Europe Midi. Le débat maintenant, nous sommes avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice gauche républicaine, et Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines. Je voudrais commencer par vous, Bruno Millienne. Je voudrais vous demander si vous avez bien dormi, parce que les débats ont duré jusqu'à très tard cette nuit ou ce matin, c'est selon.
6h du matin, je regrette qu'il n'y ait pas de soupe à l'oignon à l'Assemblée quand on termine. Mais non, oui, ça s'est terminé. Moi, en dehors de la difficulté et de la forme qui n'a pas été tout le temps très glorieuse, on a quand même vu des interventions dans l'hémicycle qu'on ne devrait pas voir dans ce genre de cénacle. Mais sur le fond, il y a eu beaucoup de débats intéressants. On a vu se mettre en place des oppositions de conception, très clairement. Et malgré tout, on a pu se retrouver sur quelques sujets, c'était intéressant. Et ce que j'ai retenu moi surtout, c'est que effectivement, c'est l'Assemblée souveraine qui vote. Puisque la majorité présidentielle n'a pas la majorité elle toute seule. Il y a eu de temps en temps, soit des votes, même avec la NUPES.
Même avec le Rassemblement national. Même avec les écologistes.
Avec le Rassemblement national, même avec les écologistes. Évidemment, nous, on sent un certain rapprochement avec les LR, en tout cas sur ce texte. Il y en a eu beaucoup avec les LR.
Oui, beaucoup.
Oui, non, mais c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Mmh. Mais il est intéressant de voir que là, pour le coup, si ce que les Français nous ont envoyé comme signal en faisant ce schéma d'Assemblée nationale, c'était essayer de travailler ensemble et que l'Assemblée soit souveraine par rapport au gouvernement, bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti.
Expérience
maintenant,
stimulant.
Il faut que chacun apprenne à respecter effectivement les votes de l'Assemblée souveraine. D'accord ? Il n'y a pas des votes qui valent mieux ou moins bien que d'autres, même si certains ne nous plaisent pas. Tous les gens qui sont à l'Assemblée nationale ont tous été élus, ils sont tous légitimes. Donc maintenant, l'Assemblée souveraine, il faut travailler comme ça.
Marie-Noëlle Lienemann, les députés ont aidé les Français, leur pouvoir d'achat, ils l'ont défendu.
Bah écoutez, au moins, il y a eu des vrais débats. Il y a eu plusieurs stratégies pour relever le pouvoir d'achat. Et derrière ces stratégies, elles ne sont pas que des débats de mesure, elles sont aussi des débats de conception. Dans l'état où nous sommes, la situation du pays, qui n'est pas simplement lié à la guerre d'Ukraine, mais aussi quand même un grand changement économico-géostratégique.
Ça avait commencé avant la guerre en Ukraine, c'est vrai, la poussée inflationniste.
Il y a des choix de société à faire. Mm-hmm. Et un des grands débats, c'est la question salaire-prime. Évidemment, personne ne dit qu'il ne faut aucune prime, aucun intéressement et autres. Mais enfin, moi qui défends les thèses de la gauche, je considère...
Je le précise, vous ne soutenez pas la NUP. Hein.
On n'est pas contre la NUP, mais on n'était pas dans la NUP. Mais en tout cas, on est pour le rassemblement.
Vous avez soutenu un candidat dissident lors des dernières législatives.
Dans certains cas, mais pas partout. Dans d'autres, on a soutenu les candidats de la TNUP. En tout cas, on est pour le rassemblement de la gauche sur des thèmes de gauche. Et s'il y a un thème qui rassemble non seulement la gauche, mais l'ensemble des organisations syndicales qui avaient écrit au président de la République pour dire qu'à l'unanimité, ils demandaient des nouvelles politiques salariales. Alors, une partie dépend des choix de l'Assemblée. Une partie dépend aussi de la capacité de l'État à pousser un grand accord national sur les salaires dans la négociation d'une conférence salariale avec des accords de branche, avec des règles beaucoup plus contraignantes sur les minima de branche qui ne devraient jamais être en dessous du SMIC. ou d'autres sur les revalorisations de métiers. Et donc là, je crois que à la fois le travail à l'Assemblée était révélateur et utile dans bien des domaines. Je prends un exemple sur les loyers. On voit bien que moi,
pour ne pas dépasser 3,5%.
Oui, mais il y a plusieurs choses. Ça, c'est une des critiques que je fais, c'est globalement les aides ou les revalorisations sont en dessous du seuil de l'inflation. Mmh. Donc, quand vous avez quelqu'un qui va avoir un loyer, il va augmenter, mettons, de 3,5%, et lui, son salaire n'aura pas, ni même les primes et autres, n'auront pas évolué de la même manière. Et par ailleurs, vous avez l'allocation logement, elle est remise à 3,5%, mais les trois quarts du temps, l'allocation logement ne couvre pas la totalité du loyer. Donc, même les plus modestes vont avoir des hausses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des avancées peu par rapport à ce qu'avait proposé le gouvernement. Et on voit quand même se coaliser, je ne dirais pas du point de vue seulement tactique, mais du point de vue de la vision des choses, plutôt un accord à droite avec LR et plutôt qu'un accord sur la stratégie de revalorisation salariale à gauche.
C'est pas tout à fait faux, Bruno Millienne. Dans son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron disait que la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'était le travail.
Oui,
ça fait penser à un certain Nicolas Sarkozy, qui est issu des rangs de la droite.
Le travail dans un sens où effectivement, et là je le revendique complètement...
Vous n'avez pas voté hier les augmentations de salaire.
Non, mais je revendique complètement la valeur travail, c'est-à-dire que je pense que pour sortir de la précarité, il n'y a rien de mieux que d'avoir du boulot. Donc effectivement, je suis pour pousser pour le plein emploi. Je rejoins nos amis de la gauche à l'Assemblée, mais même au Sénat, parce qu'ils sont au Sénat aussi.
Ils auront leur mot à dire, puisque le texte va passer au Sénat ensuite.
Sur le fait aussi, et on l'a demandé du temps où Patrick Mignola était président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, on veut vraiment que soit convoquée une conférence sur les salaires. Là le texte de loi, c'était vraiment des mesures d'urgence. Alors, on peut considérer qu'on n'est pas allé assez loin, mais il y a quand même des choses qui ont été faites, notamment sur la protection en termes d'énergie, etc., pour pouvoir essayer de se désengager de cette dépendance qu'on a vis-à-vis, notamment
de la Russie.
Des énergies fossiles au niveau de la Russie. Mais il y a eu d'autres choses, la déconjugalisation. Je ne sais pas si on aura le temps de reparler de tout ça.
Ça a été unanime.
Ça faisait
des années
qu'on
devait revenir sur ce point.
Je veux juste revenir sur ce point. La conférence sur les salaires qu'on doit convoquer, elle est nécessaire. On ne peut pas, sur un texte comme celui-là, aborder cette question-là qui est primordiale pour les années qui viennent. Il faut vraiment en discuter, mais sur le plus long terme,
oui,
et se concerter.
Vous avouerez que Macron aurait dû le faire tout de suite, parce que c'est un signal
politique.
Différence
de conception de la société. On continue d'en parler dans le débat d'Europe Midi, juste après une courte pause. Restez avec nous.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Que faut-il faire pour défendre le pouvoir d'achat des Français, favoriser, encourager le travail ou augmenter les salaires? C'est le débat que nous avions juste avant la pause. Nous le reprenons dans quelques secondes avant le rappel de l'actualité d'Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Et bonjour Raphaël, bonjour à tous. Les députés examinent aujourd'hui le projet de loi de finances rectificative, celui qui va permettre de financer toutes les mesures votées dans le projet de loi pour le pouvoir d'achat. Il a été adopté au bout de la nuit après 5 jours de débat houleux pour soigner le portefeuille des Français. Total Énergie annonce de nouvelles remises à la pompe, 20 centimes par litre entre septembre et novembre, 10 centimes sur le reste de l'année. Bruno Le Maire se dit par ailleurs prêt à relever le plafond journalier des tickets restaurants de 19 à 25 euros. Gérald Darmanin est arrivé en Corse pour évoquer l'autonomie de l'île de Beauté. Les discussions reprennent aujourd'hui. Elles avaient été ouvertes après la mort d'Ivan Colonna. Quelques 30 000 évacués de Gironde attendent toujours de regagner leur domicile. Certains ont pu le faire dès hier. Aujourd'hui, le feu est contenu mais pas encore fixé. Le gouvernement appelle les assureurs à la plus grande mobilisation pour accompagner les particuliers et les entreprises touchées. La Haute Autorité de Santé s'oppose à une réintégration des soignants non vaccinés, la HAS, dont les avis servent de base aux décisions du gouvernement. Elle met en avant le grand nombre de contaminations actuelles en France. Il est très important de permettre l'exportation des céréales ukrainiennes, assure le Kremlin. Un accord a été trouvé entre la Russie et l'Ukraine. Il doit être signé aujourd'hui. Il prévoit de laisser passer les cargos chargés de céréales via des corridors sécurisés sur la mer Noire. Et puis un mot du Tour de France, 19e étape aujourd'hui entre Castelnau, Magnoac et Cahors.
Merci Émilie Dez qui sera avec vous jusqu'à 17h. Quant à moi, Émilie, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end.
Merci.
Europe 1.
Nous sommes avec la sénatrice gauche républicaine Marie-Noëlle Lienemann et Bruno Millienne, député Modem des Yvelines. Nous reprenons notre discussion sur les solutions à favoriser pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Avant la pause, Bruno Millienne, vous opposiez aux augmentations de salaire.
Non, je ne m'oppose pas aux augmentations de salaire. Le texte de loi qu'on a voté est un texte de loi d'urgence. On peut le considérer imparfait, effectivement. On a bien vu d'ailleurs dans l'hémicycle qu'il y avait deux oppositions sur ce texte. La gauche voulait absolument augmenter les salaires. Nous, on était plutôt partis sur les primes et sur les coups de pouce. Ça n'empêche pas, et on l'appelle de nos voeux, nous, au Modem, déjà depuis 3 ans, qu'il faut impérativement, à un moment ou à un autre, convoquer une vraie conférence sur les salaires, parce qu'il faut qu'on sorte de cette espèce de plafond de verre qu'on a en France, où au-delà de 2 000-2 400 euros, il est très difficile d'avoir des augmentations. Et du coup, comme le SMIC augmente automatiquement, les gens qui sont dans cette fourchette-là se disent, à un moment ou à un autre, c'est moi qui vais être déclassé. Donc il faut vraiment qu'on convoque ça. Et puis, le gouvernement a quand même agi, ils ont poussé un petit peu quand même les branches à travailler. Il nous reste 18 branches sur lesquelles les grilles de salaire donnent des salaires minimums inférieurs au SMIC.
Mais encore 18 quand même.
Il y a encore 18, c'est quand même aberrant de voir qu'on a encore 18 branches où les grilles de salaire sont inférieures au SMIC. Donc tout ça, ça ne va pas. Bien évidemment qu'il faut travailler dessus. Moi, ce que je dis simplement, c'est que c'était, pour moi en tout cas, pas le texte sur lequel il fallait le faire. Ça demande un travail plus en profondeur, plus sérieux, qui prendra plus de temps et qui doit se faire avec les organisations syndicales de toute façon.
Marie-Noëlle Lienemann.
C'est jamais le temps. C'est jamais le bon moment. Et on nous dit toujours, il faudra plus tard. Mais depuis que Macron est réélu, rien ne l'empêchait d'engager une grande conférence salariale. Parce que ce que vous dites, c'est à la fois vrai qu'il y a un effet de tassement vers les bas salaires. D'ailleurs, tous les avantages fiscaux qui ont été tellement ciblés sur les bas salaires, au lieu justement d'avoir une stratégie beaucoup plus correcte d'accompagnement de l'emploi, on jouait dans cette salle. Mais surtout, il y a plein de métiers à revaloriser. Il y a des métiers parce que, moi j'entends le discours sur « faut revaloriser le travail ». Mais la seule façon de revaloriser le travail, c'est d'abord de revaloriser le travailleur. Et que les emplois soient correctement rémunérés, que les gens puissent vivre dignement de leur travail, sans être sans arrêt dans l'aléa d'une prime ou pas d'une prime. La deuxième chose qui rend ça essentiel, c'est qu'on a plein de PME qui sont sous-traitantes ou dépendantes de donneurs d'ordre que sont les plus grandes entreprises. Elles, ces PME, leur marge de manœuvre salariale, même si le patron est de bonne composition et n'est pas en train d'engranger des profits abusifs, ils sont sous cette pression. Donc s'il n'y a pas un accord global sur l'évolution des salaires par grande branche, vous avez toujours la petite PME qui après aura du mal à recruter parce que les gens auront des moindres salaires et des moindres valorisations. Donc c'est vraiment le grand chantier de la période. Et bien sûr, il y a des choses à faire à tout de suite, mais on est là vraiment dans un changement radical de vision, revaloriser les salariés, pousser à leurs compétences, revaloriser des métiers qui aujourd'hui sont insuffisamment bien pris en compte dans les rémunérations, les conditions de travail.
Bruno Millienne, oui, très vite.
10 secondes, juste, je suis 100% d'accord avec vous, madame la sénatrice, aussi bizarre que cela puisse paraître.
Mais vous voyez qu'il n'y a pas la même conception.
Non, mais vous voyez bien la complexité des choses. Entre les TPE et les PME qui sont sous la pression de grands groupes, qui sont sous-traitants, et qui n'ont pas les mains libres, finalement, sur les salaires de leurs salariés, alors que les patrons voudraient bien les augmenter. Et des TPE-PME qui sont des petites entreprises familiales qui, eux, ont leurs propres clients, leurs propres carnets de commandes, qui ont peut-être aujourd'hui des difficultés, de vision à long terme sur ce qu'ils vont pouvoir avoir comme bénéfice ou comme valeur ajoutée de leur entreprise, mais qui sont toujours prêts à augmenter leurs salariés parce que c'est une conception différente.
La loi Macron qui mettait tout dans l'entreprise, au lieu de mettre par branche, vous avez des salaires de branche, le patron de la grosse boîte, il ne peut pas pressurer la PME.
C'est pour ça que nous sommes d'accord, il faut cette conférence sur les salaires.
Des accords aussi, il faut que l'État fasse pression.
Et les 18 branches, il faut qu'elles se dépêchent de trouver des solutions.
Alors, il y a une solution sur laquelle vous n'êtes pas d'accord pour donner du pouvoir d'achat aux Français, c'est la suppression des taxes. Il y en a une qui sera en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances rectificative, c'est la suppression de la redevance audiovisuelle, 138 euros auxquels les Français sont en fait plutôt favorables. 16% d'entre eux souhaitent qu'elle soit maintenue. 34,5% préféraient qu'elle soit présentée sous une autre forme, qu'elle soit plus élevée pour les foyers les plus aisés et réduite pour les plus modestes. C'est un sondage de la Fondation Jean Jaurès. C'est vrai, Bruno Millienne, comment on remplace 3,2 milliards d'euros dans les finances publiques?
Déjà,
ce que représente déjà, la redevance audiovisuelle.
Déjà, on va voir au PLF comment ça se passe, parce que maintenant, c'est bien un budget qu'on va être obligé de voter en PLF.
Projet de loi de finances.
Et pour nous, ce qui nous concerne au Modem, il est hors de question que le budget de France Télévisions, enfin de l'audiovisuel public,
soit rogné
par rapport à ce qui touchait quand il y avait...
Alors justement, Aurore Berger, la chef des députés Renaissance, propose de prélever une fraction des recettes TVA, 3,7 milliards, pour les flécher vers l'audiovisuel.
Pourquoi pas ? Il faut qu'on trouve un système, un, qui pérennise. Mais je voudrais dire d'abord en introduction, c'est que entre la collecte de la recette fiscale qu'on avait, cette fameuse redevance télé, et le budget de France Télévisions...
Que tous les Français doivent payer. Tous les Français ayant un téléviseur ou une connexion Internet.
Oui, enfin, payant la taxe d'habitation. Voilà, parce que c'était corrélé à la taxe d'habitation.
C'est adossé sur la taxe
d'habitation. Ces recettes qu'on reçoit et le budget de France Télévisions, c'est complètement décorrélé, vous ne trompez pas. Ça ne va pas directement du prélèvement qu'on a sur la taxe d'habitation, directement dans le budget de France Télévisions. C'est décorrélé. Donc là où il faut qu'on travaille, c'est d'abord savoir exactement ce qu'on veut faire de France Télévisions. Et moi qui viens de médias...
Il y a aussi Radio France, il n'y a pas de France Télévisions.
Ouais, l'audiovisuel public, pardon... Je rêve d'un schéma à la BBC, mais ça coûte un petit peu cher.
Ça a été inspiré justement du modèle britannique.
Absolument, mais
en 1933.
Ça demande des moyens considérables. Donc après, effectivement, c'est dans les projets de loi de finances que ça va se décider. Moi, je souhaite, on est à 3,2 milliards, il y a des propositions de fléchage à 3,7 milliards. Attendons de voir ce qui va se passer au PLF. Je fais aussi confiance aux sénateurs pour être vigilant là-dessus, mais il est hors de question que le budget de l'audiovisuel public baisse.
Qu'est-ce qu'on fait avec la redevance audiovisuelle ?
Premièrement, cette redevance était injuste. Donc ça, c'est sûr que la manière dont elle était calculée n'était pas juste. Nous, il y a plusieurs choses auxquelles on tient de manière tout à fait essentielle. Premièrement, il faut qu'il y ait un financement spécifique adossé à une recette spécifique pour l'audiovisuel public, qui d'ailleurs, de notre point de vue, devrait être versé dans un fonds dédié. Car comme vous l'indiquez, on est toujours dans l'éternel débat. C'est censé aller à l'audiovisuel, mais ça vient en fait dans le budget de l'État et reversé. Donc un fonds dédié, une cotisation qui soit proportionnelle, plutôt universelle, mais proportionnelle aux revenus, enfin en progression par rapport
aux revenus. Plus on gagne d'argent, plus on paye.
On paye, voilà. Donc il y a eu plusieurs propositions de loi qui ont été déposées dans ce sens, et c'est un peu la stratégie que nous privilégions. Alors évidemment, chaque fois qu'on dit aux Français... Voulez-vous supprimer une taxe ? Enfin, c'est rarissime qu'ils vous disent non, on y tient beaucoup. Donc, la question...
Celle-ci est un peu particulière.
Voilà, mais justement,
les Français ont un certain attachement à l'audiovisuel.
J'allais vous dire, tous les sondages montrent que les Français sont très fortement attachés.
Une radio concurrente est largement plébiscitée récemment.
Voilà, mais indépendamment, ça c'est le principe que dans l'ensemble du paysage, tout n'est pas public. Mais l'audiovisuel public doit jouer un rôle significatif et particulier. Ça montre un petit peu notre deuxième désaccord, en tout cas avec la politique de M. Macron, qui ne veut que baisser les taxes et les impôts, alors que nous disons qu'il y a des impôts qui s'imposeraient, si je puis dire, notamment celles des entreprises qui ont profité de la crise ou qui profitent des bénéfices sur le gaz, l'électricité, enfin le gaz, l'essence, etc.
On va en parler juste après.
Et donc, notre stratégie, quand on parlait des débats de société. Aujourd'hui, nous considérons que rendre une fiscalité plus juste est une priorité par rapport à cette espèce de gel d'une situation fiscale injuste.
Des compromis possibles avec la gauche sur la...
Oui, je pense que pour ce qui concerne l'audiovisuel public, on va trouver des compromis et des accords. Il y a aucun souci là-dessus. Puis il y a quand même un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui cette redevance audiovisuelle était quand même axée sur le fait que vous possédiez ou pas un téléviseur. Chez
une
vous.
Connexion internet aujourd'hui.
Une connexion internet, mais voyez
même
bien.
Si vous êtes d'accord avec moi, regardez la télévision sur une tablette et sur un écran.
C'est pas la même chose. Et puis voyez bien nos tablettes, nos smartphones aujourd'hui encore ne sont fort heureusement, je crois, pas taxés.
Et encore, c'est une histoire générale.
Voilà, c'est une histoire.
Les jeunes, ils ont l'air de trouver ça bien, de regarder la télé sur sur une tablette ou le
et en replay. Donc c'est, ça, c'est
pas nécessairement sur le support, mais de pouvoir le regarder un peu.
Oui, mais enfin, vous voyez bien que la consommation audiovisuelle a changé. Donc le modèle qu'on avait et qui était valable il y a un certain temps, il faut qu'il soit renouvelé et rénové.
D'accord. Et le fait qu'on retire la redevance télévisuelle, ça ne va pas se répercuter sur la qualité des programmes offerts
mais non, mais il faut
par le service
pas.
Public
on est dans une mutation, de toute façon, de la société aujourd'hui.
Il y a déjà eu des grèves à Radio France hein,
oui,
et à
France
Télévisions.
Oui, bien sûr, mais l'inquiétude sera toujours là. Enfin,
oui, mais M. Millienne, pourquoi
comment on rassure
les gens? Il y a l'inquiétude parce que le RN propose la suppression de l'audiovisuel public.
Oui, oui, mais là,
et donc,
ils sont pas
la menace,
pouvoir,
d'accord, mais la menace, elle commence à paraître quand même plus réelle que par le passé.
L'impression que Bruno Millienne suggère la suppression de l'audiovisuel public.
Pourquoi ça se mobilise.
Non, mais pour
c'est
le coup,
qu'il y a un doute dans l'opinion.
Pour le coup, avec vous, si je peux dire, avec la gauche, on est quand même majoritaire sur ce sujet, à vouloir un service audiovisuel public qui soit indépendant et financé.
Alors, dans le PLF, dans le projet de loi de finances rectificative tout à l'heure, vous allez également parler de la ristourne sur le carburant. Actuellement, elle est de 18 centimes. Saviez-vous, Bruno Millienne, que d'après le Conseil d'analyse économique, hein, qui est rattaché à Matignon, cette aide à la pompe bénéficie surtout aux plus aisés, 18,50 € en moyenne contre 9,50 € pour les plus modestes.
Bah oui, forcément, et c'est pour ça qu'on voulait...
C'est injuste, ça aussi.
C'est pour ça qu'on voulait des mesures plus ciblé. Après...
Alors, de ce que j'ai compris, vous êtes en train de bâtir un compromis avec les Républicains pour passer à la trappe ce chèque ciblé pour les gros rouleurs et s'accorder sur une ristourne générale de 30 centimes d'euros. Vous confirmez?
Alors, oui, il y a ça qui est dans l'air. Il y a d'abord effectivement une ristourne plus importante. C'est l'effet, on va dire, prix, parce que vous avez vu la proposition des Républicains, c'était de tomber à
1,50 €
le litre. Bon, donc on va essayer de trouver un compromis avec une ristourne de 20 à 30 centimes par le gouvernement. Eux demandent 40 centimes par litre. Et vous voyez bien, vous l'avez dit vous-même, et j'ai eu des discussions d'ailleurs avec certains députés de la France Insoumise à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas la même conception des choses, c'est que moi je suis pour qu'on travaille à fond, effectivement, sur des mesures ciblées de pouvoir d'achat, puisqu'on le dit, à chaque fois ça ne profite pas forcément à ceux qui en ont le plus besoin, mais il va falloir trouver des compromis. On est obligé de trouver des compromis, puisque de toute façon, encore une fois, la couleur de l'Assemblée nationale après les législatives fait qu'on est obligé d'avancer les uns vers les autres. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis, j'imagine qu'on parlera de Total après, mais pour revenir sur la supertaxe ou pas.
Alors, c'est sans arrêt la même chose. Quand vous avez toute une série de prix, celui qui consomme plus profite davantage. Mais moi, je ne crois pas qu'on mène une politique de prix par de l'assistance sociale et du ciblage d'aide. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez des effets de seuil, il y a plein de gens qui ne sont pas dedans.
Qu'est-ce oui, c'est pas simple.
Donc tout ça ne marche pas, puis ça donne une impression d'assistance, et après on dit « Ah, il y a de l'assistanat ». Ben oui, ce n'est pas une bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est soit de dire, comme le proposent les filles, on bloque les prix, soit comme le propose par exemple M. Roussel, on baisse la TVA et on taxe les multinationales pour la recette de TVA pour atteindre un certain prix. Dans tous les cas de figure, l'idée d'avoir un prix beaucoup plus abordable et doit être l'objectif principal. Après, si on trouve que les plus aisés profitent des choses, eh ben on taxe les riches, soit on augmente d'un pouillème l'impôt sur le revenu pour les plus aisés, soit on trouve une stratégie, par exemple, on dit on taxe les SUV, on trouve des mécanismes qui touchent pile poil ceux qui surconsomment de l'essence. Mais cette idée, c'est toujours le même débat un peu philosophique. Est-ce qu'il y a une certaine universalité des stratégies prix ou des stratégies de prestations sociales? Et ensuite, pour les financer, on trouve des recettes qui font cotiser davantage ou payer davantage les plus aisés. Et ça, je crois que c'est plus juste dans la période. Parce qu'il y a trop de gens, vous êtes peut-être un peu plus riche, mais vous habitez loin de votre lieu de travail, vous allez être très pénalisé. Et quelqu'un de moins riche qui habite à côté de son boulot va l'être moins. Donc tout ça est tellement fin que du coup ça devient injuste, alors qu'une stratégie identique pour tous, où chacun paye à proportion de ses facultés respectives, me paraît beaucoup mieux.
Là, vous suggérez de taxer les grands groupes. Il suffit seulement de brandir la menace hein, d'une taxe sur les super-profits pour que Total Energy propose ce matin une ristourne de 20 centimes supplémentaires du 1er septembre au 1er novembre.
C'est quand même pas la révolution.
Oui, puis 10 centimes hein. après jusqu'au 31 décembre. Non, mais oui. C'est intéressant de voir que...
Ça se cumulera tout ça. Hein.
Oui, ça se cumule.
Tant mieux,
avec,
c'est toujours ça pris, comme dirait l'autre.
Donc finalement, on va tomber sur un
très
accord.
Très vite, je voudrais qu'on parle de sécurité
oui.
après.
Oui.
Donc on va finalement tomber sur un accord. Ça sera une réduction, je pense, pour tout le monde, même si ça profite plus à certains qu'à d'autres. Mais en tout cas, ça évite les effets de seuil. Total réagit, je pense, dans le bon sens. Et je pense que Bruno Le Maire a eu raison de jouer de la carotte et du bâton. On verra pendant le PLF ce qu'il en est des autres profiteurs, parce qu'on ne s'est jamais interdit pendant le projet de loi de finances
oui.
d'aller vers une taxation des super-profits. On a d'abord voulu les sensibiliser et qu'ils prennent leurs responsabilités. Dont acte. On verra par la suite.
Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque ce qui a circulé hier sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être regardé. J'aimerais qu'on écoute. Tiens, voilà. Là, ce que vous entendez, c'est des dizaines d'individus, jeunes pour la plupart, ça se passe dans le quartier de la Guillotière à Lyon, et ils sont en train de lyncher, littéralement lyncher, trois policiers en civil. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? On va achever notre débat là-dessus.
Mais c'est catastrophique, inacceptable. Évidemment, on ne peut en aucune façon cautionner. Il faut être absolument solidaire de la police. Alors que la police a toujours des comportements parfaits partout. Ça, c'est de toute façon...
Là, ils sont trois en civil.
J'allais vous dire,
la
hiérarchie doit y veiller, mais là, il n'y a pas de raison de suspecter. Parce que c'est inacceptable qu'on traite la police comme cela. La police républicaine doit être républicaine et doit être respectée comme républicaine. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, la justice doit être saisie. Donc moi, je reste convaincue qu'il y a des choses à faire pour une meilleure entente entre la police et les citoyens. Mais là, rien n'excuse une attitude scandaleuse et même... il va falloir trouver les...
Renforcer l'arsenal juridique.
Oh, je ne suis pas sûre. Il faut déjà trouver les gens et le faire fonctionner. Il y a tout dans la loi pour les sanctionner.
Bruno Millienne, la violence est décomplexée. Il y a un sentiment d'impunité aujourd'hui dans certains quartiers de France.
Mais la violence est d'autant plus décomplexée quand vous avez de grands responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui n'arrête pas à chaque fois de dire « la police tue ». Je suis désolé, au bout d'un moment, moi je veux dénoncer ces attitudes-là, qui sont des attitudes qui poussent...
Il y a eu à Lyon ces derniers jours la conséquence d'un discours politique.
Oui aussi, pas que, mais aussi. Enfin, vous pouvez pas en permanence avoir un discours qui tape sur le drame, enfin sur le drame de Lyon. Oui, ils ont quand même eu des incapacités temporaires de travail, les policiers. C'est quand même, ils se sont fait lyncher. Est-ce qu'il y a eu un seul tweet, une seule réaction de la France insoumise pour défendre les policiers ? Non. Eh bien, moi, je dis que ces responsables politiques sont en partie responsables de l'ambiance qu'il y a dans le pays.
Enfin, la violence, elle a été antérieure à toutes les déclarations.
Oui, je suis d'accord, mais ça n'aide pas.
Que je ne soutiens pas.
Mais madame la sénatrice, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça ne fait que raviver le feu.
Ce qui n'aide pas non plus. Reconnaissez quand même qu'il y a dans certains quartiers, alors je ne sais pas comment ça se passe dans ce quartier, ça ne justifierait en rien les choses. Vous avez parfois des sur-contrôles.
Le quartier de la Guillotière est, hélas, régulièrement connu défavorablement, comme disent les policiers.
Répétitifs qui font que, moi c'est pour ça que je suis absolument pour le petit papier de contrôle pour pouvoir... qu'on arrête d'avoir le jeu...
Oui, ou simplement les caméras, déjà.
Oui, alors les caméras, déjà, c'est plus compliqué parce qu'elles ne marchent pas toujours bien. Enfin bon,
si, les alors, nouvelles,
au moins
si.
Un récépissé.
Le récépissé.
Au moins ça, et qu'on ait, par ailleurs, un vrai travail, mais j'espère que ça va se faire, de formation et d'encadrement de la police, qui, dans certains cas, je peux le comprendre, sont sous pression, et finissent par avoir des comportements qui... Ils s'auto-entretiennent. Bon, donc tout ça est un vrai sujet qui doit être traité avec rigueur, mais absolument jamais en acceptant que la police soit traitée comme ça. Et en ne donnant pas des circonstances atténuantes à des gens qui ont un comportement inacceptable. Pas de circonstances atténuantes dans un côté, pas dans l'autre.
Merci Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice gauche républicaine. Merci Bruno Millienne, député Modem des Yvelines, d'avoir participé au débat d'Europe Midi. Bonne journée à vous.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Comme tous les jours, les dernières secondes d'Europe Midi sont dédiées au Tour de France.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy. Tout de suite sur la route du Tour.
Le Tour de France sur Europe 1 avec Richard Virenc.
Bonjour Richard.
Bonjour à tous.
Bon, cette fois, sans trop se mouiller, on peut le dire, il n'y a plus de suspense au classement général là.
C'est clair que les places sont établies, le podium, les maillots distinctifs, maillot vert, maillot blanc, maillot à pois, ben, tout ça est acquis. Hein. À moins d'un problème, on va dire, de Covid ou autre chose, une chute, on va aller comme ça défiler jusque sur les Champs-Élysées.
Vingegaard, donc, qui chuterait ou qui attraperait le Covid, ce serait le dernier bouleversement dans ces trois derniers jours de compétition. Ça n'est jamais arrivé, hein, ça, Richard. Ce genre de renversement, une chute, hein.
Ah ouais, je sais pas. Non, ce qui est arrivé, c'est perdre le maillot jaune à quelques jours de la fin, mais sur un acte, on va dire, physique, hein, ouais. Un coureur qui craque. Mais là, sur chute comme ça, bon, non, mais on va pas leur souhaiter. Hein. Je crois qu'il le mérite amplement. Et par contre, aujourd'hui, ben, on va dérouler les échappées. Peut-être une victoire française, on espère encore hein, que l'échappée aille au bout. C'est moins sûr parce que ça, les sprinteurs vont essayer de faire parler.
Faire la loi, oui.
Ouais, c'est ça. Donc,
Wout van Aert qui a assuré son maillot vert va peut-être se calmer maintenant. Il a attaqué quasiment tous les jours, hein, le Belge.
Ah, je pense que c'est un cannibale hein, sur ce Tour de France. Il mange tout. Et peut-être, il va peut-être encore s'imposer peut-être aujourd'hui. Parce que c'est le sprinter qui est en course et qui marche comme un avion. Et on a vu hier, hein, c'est lui. Bon, il s'était lancé dans une échappée. Il avait attendu le maillot jaune et... C'est lui qui a permis à faire sauter.
Ouais, c'est cette stratégie qui a fait que Pogacar a été distancé.
Bon, Pogacar avait beaucoup donné quand même. Hein, ouais. Vous avez vu, hein,
il a attaqué
plusieurs
long,
fois.
Ouais.
Et il s'est pris à son propre piège. Pourquoi ? Il a essayé d'attaquer le maillot jaune dans une descente. Et à un moment donné, il pensait que c'était le maillot jaune qui allait tomber. Mais c'est lui qui est parti à la faute et qui est tombé. Et forcément, quand on tombe derrière, on est un peu... vous savez, c'est comme un ordinateur. Quand il tombe par terre, des fois, ça repart pas bien comme il faut. Et voilà, donc sa défaillance dans la dernière ascension, c'est un peu tout ça, je crois. Donc voilà, bon, il finira quand même deuxième du Tour de France. Il en a déjà gagné deux. Il est jeune, il a le temps de revenir pour essayer d'en gagner un troisième. Donc je pense que bon, la bataille est finie pour le classement général. On va dérouler gentiment sur une étape de pour les sprinteurs et peut-être l'échappée ira au bout. Ça, c'est on verra bien.
On suivra ça de près. Merci Richard Virenque que l'on retrouvera après l'étape ce soir à 19h50 sur Europe 1.
Le Tour de France.
L'émotion vélo est sur Europe 1.
Voilà, c'est ainsi que se referme Europe Midi. Merci de nous avoir suivis toute la semaine. Je vous retrouve dès lundi. Demain, vous serez en compagnie de Lénaïque Monnier. Bon week-end à toutes, bon week-end à tous.